Bonjour Olivier Marleix.
Bonjour.
Pensez-vous que les militants ou les sympathisants des Républicains y voient un peu plus clair ce matin sur votre stratégie pour la présidentielle après les universités d'été de rentrée qui se sont tenues ce week-end?
Écoutez, elles ont été un très beau succès, ces universités d'été. Il y avait plus de 1700 jeunes. Ça fait longtemps, sincèrement, qu'on n'avait pas senti une belle ambiance. Donc tous ceux qui ont participé, en tout cas, sont sortis gonflés à bloc.
Non, mais que ça a été sympathique, chaleureux, que les buffets aient été agréables, c'est une chose. Mais est-ce que vous pensez que vos sympathisants, vos militants, ils voient plus clair sur la manière dont les choses vont se passer chez vous pour la présidentielle?
C'est déjà important, l'ambiance, vous savez, dans un mouvement, c'est quand même révélateur de beaucoup de choses. Et d'ailleurs, la présence aussi un très grand nombre de journalistes montre que je pense que beaucoup font aujourd'hui l'analyse que c'est quand même à droite qu'est en train de naître une alternative à Emmanuel Macron. La stratégie, je sais pas si c'est la question de la primaire que vous voulez.
Oui, entre autres, parce qu'effectivement, puisque vous parlez des journalistes, ils sont assez unanimes pour dire que ça reste la grande inconnue et que finalement rien n'a été tranché une fois de plus.
Pour l'instant, c'est pas la grande inconnue, puisqu'on a attendu pendant 2 ans un candidat naturel. Ce candidat naturel n'est pas venu. Le bureau politique des Républicains a décidé au mois de juillet dernier que faute de candidat naturel, on s'en remettrait à une forme de primaire, en essayant de retenir un peu la leçon de ce qui va être pas très agréable dans la primaire la dernière fois, c'est-à-dire l'espèce de lutte entre clans, etc. Le déballage de l'Inchal en famille. Donc, faut retenir un peu les leçons de ce qui n'a pas marché, mais c'est la seule façon de départager. Je n'imagine pas très sincèrement aujourd'hui qu'on puisse revenir en arrière sur cette décision qui a été prise d'aller vers une primaire au mois de novembre.
Donc ça vous paraît un scénario à peu près inéluctable, mais il y a la question de savoir aussi si c'est une primaire ouverte ou une primaire fermée.
Non, alors quand on dit primaire, c'est effectivement, c'est pas un seul choix réservé aux militants. C'est un système de départage qui est un peu élargi pour donner le sentiment à tous les candidats que ce n'est pas un piège pour eux. Si Valérie Pécresse a décidé de venir dans ce processus de sélection, c'est parce qu'elle est consciente que c'est ouvert au-delà des seuls adhérents à jour de cotisation. C'est la position sur laquelle d'ailleurs Laurent Wauquiez aussi c'était décidé. Enfin, c'est celle qui permet de rassembler le plus largement. Ce système de départage, ça doit être un piège pour personne et ça doit permettre aux trois favoris aujourd'hui, ceux qui se démarquent dans les sondages de venir.
Mais on sait que le président des Républicains, Christian Jacob, n'en a pas envie de cette primaire.
Écoutez, je sais pas s'il y en a envie ou pas envie. Moi, je l'ai pas entendu s'exprimer publiquement sur le sujet depuis le bureau politique où on a arrêté cette stratégie. Donc, voilà.
Puisque vous avez parlé de Valérie Pécresse, elle était à sa place chez les Républicains dans la mesure où elle n'est plus membre du parti.
Écoutez, j'avoue que j'étais un petit peu étonné de l'avoir arrivée, puisqu'elle n'est plus membre des Républicains et qu'elle est venue à un événement interne des Républicains, ouais, qui était ces journées des jeunes Républicains. Bon, moi, je m'en réjouis que tous ceux qui nous ont un jour tourné le dos de manière plus ou moins sympathique reviennent vers nous. C'est plutôt une bonne nouvelle. Il ne manque plus que Xavier Bertrand.
Ouais. On a l'impression, Olivier Marleix, que la droite est un petit peu inquiète, voire un peu affolée par la perspective d'une candidature à la présidentielle d'Éric Zemmour. Est-ce que ça n'est qu'une impression?
Oui, écoutez, moi, je ne partage pas. J'entends ça depuis quelques jours. D'abord, il n'est pas candidat encore. Il faut avoir 500 signatures de maire pour être candidat. Donc, on n'est pas au bout du truc. Non, globalement, ce que ça m'inspire, c'est que l'élection présidentielle, enfin, c'est pas la nouvelle star, quoi. Et c'est pas parce qu'on a un talent qu'on doit être forcément candidat à l'élection présidentielle. Et je crois surtout que ça peut pas être le fait d'un homme seul. Pour prendre une comparaison plus que flatteuse, qui pourrait parler à Éric Zemmour, mais enfin, le général de Gaulle en 58, quand il revient, c'est pas un homme seul. Il fait attention à créer un mouvement collectif, à pouvoir s'appuyer sur une vraie force politique.
Emmanuel Macron en 2017, ça n'était pas un homme seul.
Oui, mais pour moi, c'est le contre-exemple. On a un homme seul qui se présente, qui arrive à se glisser dans les failles, les défauts du système. Mais pour faire quoi? Pour faire quoi? Il est un homme seul. Il a une majorité de bric et de broc qui s'est constituée derrière. Il a gouverné le pays tout seul, en réalité. Absolument seul. Et on change pas, on ne gouverne pas un pays comme la France seul contre tous, quoi. C'est pas possible. Et donc, je pense qu'il faut ça en tête. Pour moi, l'élection présidentielle, je pense que ce que j'attends, ce que je ressens beaucoup, c'est nos compatriotes attendent quand même qu'on retrouve un peu de dignité dans l'action publique et donc ces grands moments où on peut où on croit que tout est possible me paraissent pas déboucher sur grand chose.
Quand vous entendez Éric Ciotti qui lui-même voudrait devenir président de la République dire que en cas de second tour peu probable peut-être mais en cas de second tour Macron Zemmour il voterait Zemmour, vous voyez bien quand même que c'est un sujet qui divise chez les Républicains.
Alors, ça montre que tout ça c'est de la science-fiction, enfin voilà, que tout ça n'est pas sérieux
et qu'on n'est pas obligé dans ce cas-là de se prononcer sur des scénarios fiction
et qu'on débat, bien sûr on n'est pas obligé de se prononcer sur des scénarios de fiction, vous avez parfaitement raison et d'ailleurs moi je ne le ferai pas.
Oui, mais en revanche vous pouvez vous prononcer sur ce que dit Éric Ciotti.
Oui, mais c'est tout ça
c'est pas de la fiction, il l'a dit.
Tout ça montre que ces calculs échafaudés sont absolument ridicule. On a besoin de sérieux, ce pays, il a besoin de retrouver du sérieux. Il vit depuis 4 ans dans une espèce d'excitation permanente, d'hypercommunication d'un président seul qui donne le sentiment de s'enivrer de sa propre parole. Tout ça est très loin de ce dont a besoin ce pays, qui a besoin de sérieux, une fois encore de retrouver collectivement un sentiment de dignité de l'action publique. On fera pas aimer la politique, on réconciliera pas les Français avec l'action publique si on retrouve pas un peu de dignité collective.
Le programme des Républicains qui a été présenté ce week-end va s'articuler autour de 3 grandes thématiques: protéger, libérer, rassembler. Est-ce que vous ne croyez pas que ces formules, un peu à la manière de slogans publicitaires, sont un peu éculées?
Je sais pas, derrière, vous avez des positions extrêmement concrètes. Non, c'est une façon, en réalité, de nous distinguer vraiment d'Emmanuel Macron. En clair, nous, ce qu'on propose, c'est de la liberté à l'intérieur et de la protection vis-à-vis de l'extérieur, de la liberté pour les Français, pour nos entreprises, moins d'impôts, moins de charges, et en revanche, on a besoin de protection dans le domaine économique, dans la mondialisation. On ne peut pas être un pays ouvert à tous les vents d'un commerce devenu souvent inéquitable, ou à tous les vents de tous les mouvements migratoires. Donc, liberté à l'intérieur, protection vis-à-vis de l'extérieur, en réalité, ce sont des mots très importants qui nous différencient profondément de la politique d'Emmanuel Macron depuis 4 ans.
Sur la liberté économique, notamment, il serait question de permettre aux entreprises de fixer le temps de travail, ça veut dire qu'il n'y aurait plus de durée légale du travail?
En tout cas, leur permettre d'y déroger, d'organiser par des votes à l'intérieur de l'entreprise.
Ça, vous le mettez au chapitre libéré. La retraite à 65 ans, vous le mettez dans quel chapitre?
Eh bien, dans le chapitre rassembler, c'est-à-dire que je pense que dans ce pays, il faut qu'on retrouve. Qu'on travaille, qu'on se retrouve tous autour de la nécessité de recréer de la richesse, parce qu'on ne peut pas redistribuer de la richesse qu'on ne crée pas, et donc il faut travailler davantage dans notre pays, toutes les comparaisons internationales le montrent. On n'est pas obligé d'arriver à 65 ans tout de suite, on peut faire déjà un an, ça serait déjà pas mal.
Merci Olivier Marleix, bonne journée.
Merci.